Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Canal Academy pour cette émission consacrée à un ouvrage intitulé « La Kabbale pour débutants », publié aux éditions Trajectoire et dont l'auteur n'est autre que notre collaborateur Haïm Korsia, rabbin et aumônier général israélite de l'armée de l'air et des armées françaises, secrétaire général de l'Association du rabbinat français et administrateur du Souvenir français, membre du Comité national d'éthique. Haïm Korsia, bonjour.
Ah, bonjour. Et j'allais dire fermer le banc.
Fermer le banc, voilà. Merci d'avoir répondu à l'appel de Canal Academy pour venir nous expliquer la Kabbale. Mais dites-nous d'abord, pourquoi vous avez écrit un livre sur la Kabbale ? Parce que la Kabbale, est-ce que c'est une mode soudaine, un engouement ? Quelle est l'actualité ?
Alors, tout se résume peut-être dans la première phase de mon introduction. La Kabbale a existé avant Madonna.
Ah, parlons de Madonna alors.
Voilà. Il y a une artiste qui est plutôt assez remarquable, fait des chansons assez merveilleuses, que moi j'aime bien. Mais cette artiste s'est piquée de la Kabbale. Elle aurait pu rentrer dans l'hindouisme, dans Krishna, et après la Kabbale. Et brusquement, beaucoup de gens ont découvert qu'il y avait une sagesse juive qui s'appelait la Kabbale. Alors, ils n'ont pas forcément tout compris les uns les autres. Ils s'arrêtent des fois à des artifices, à une sorte de mode extérieure. Et je me suis dit qu'il est important, peut-être maintenant, qu'on en parle beaucoup, peut-être un peu à temps en travers, de revenir aux bases, c'est-à-dire au minimal de ce qu'est la Kabbale. Je n'ai pas voulu écrire un manuel de Kabbale pratique.
Donc soyons clairs, on ne pourra pas apprendre du jour au lendemain à devenir kabbaliste.
Non, mais c'est peut-être, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, une forme d'état d'esprit général. Je dirais qu'avec une image que m'avait donnée mon maître un jour.
Dites le nom de votre maître.
C'était monsieur. Le grand Machouchna. Lui, pour lui, ces gens qui brusquement s'intéressent à la Kabbale, c'est comme si on veut mettre le vernis sur des murs qu'on n'a pas encore construits. Il pense, lui, peut-être, il est rabbin, remarquez, il n'est pas architecte, mais enfin, il a quand même une certaine idée des choses. Il pense qu'avant de mettre le vernis sur un mur, il faut d'abord faire des bases solides, il faut ensuite faire monter des murs de briques, ensuite on met un enduit dessus. Sur cet enduit, on arrive même parfois à mettre un papier sur le papier, on met de la peinture sur la peinture, on met du vernis.
Voilà. Ça veut dire que pour la Kabbale, il y a une progression.
Exactement. Et c'est le mot même qui le dit, la Kabbale, c'est ce qu'on reçoit. On ne reçoit pas tout d'un coup. On ne reçoit pas la finition des choses avant d'avoir leur base. Donc, ce que j'ai voulu rappeler, c'est la base même des choses, de l'enseignement du judaïsme. Bien sûr, avec une interprétation parfois un peu mystique, un peu ésotérique des choses, parce que la Kabbale, c'est aussi ce qui est derrière les apparences. Mais ce n'est pas un recueil de magie blanche, ce n'est pas un recueil de comment faire revenir sa femme ou son mari en 24 heures chrono. C'est tout simplement une façon d'essayer de percevoir ce qu'il y a derrière les apparences du monde. Le monde a des règles de fonctionnement que Dieu lui a données. Ces règles nous sont données dans une forme de mode d'emploi qui s'appelle la Bible et qui est donnée à toute l'humanité. Pour ceux qui savent simplement lire et qui savent se mettre à l'écoute de ce texte. C'est en ça que ce texte est divin. C'est un texte qui parle à chaque époque dans le langage qui lui est propre. C'est assez particulier puisque c'est un texte qui nous est donné à 3500 ans.
C'est un vrai défi. Mais voilà. Ça marche, puisque effectivement, ça continue, on continue de lire la Bible, bien évidemment. Voilà. Donc, dans votre ouvrage, La Kabbale pour débutants, Haïm Korsia, vous expliquez qu'il y a quatre niveaux d'interprétation des textes. Il y a d'abord la compréhension du texte littéral. Le texte,
sens
il
littéral.
Est écrit, le sens littéral. Il y a d'ailleurs des gens qui s'attachent au sens littéral et qui en restent là.
Mais je crois que tout le monde est obligé de passer par là. Mieux, même ceux qui vont plus loin, dans les trois niveaux que vous allez mentionner dans quelques instants, ne peuvent pas se libérer complètement du sens littéral. Le sens littéral, c'est l'encre dans laquelle on trempe le pinceau de la vérité.
Très
on ne peut
expression.
Pas sortir de sens littéral. Voilà. Ça se dit en hébreu de manière très belle, je ne peux pas le dire différemment, mais en hébreu, c'est « En apasuk yotse mide pshuto » jamais un verset ne pourra sortir de sa littéralité. Voilà, un verset ne peut pas dire l'inverse de ce qui est écrit noir sur blanc.
Ça, c'est déjà une première certitude. Après, il y a un autre niveau, une compréhension allusive. Et là, il faudrait donc avoir un maître pour comprendre
Exactement.
Un autre niveau.
Voilà. Alors, toujours en gardant le départ du sens littéral, ce qui n'est pas dit dans le verset est des fois induit. Mais pour ça, il y a des règles herméneutiques, des règles d'interprétation de ces versets, qui sont au nombre de 13 règles herméneutiques. Alors, ça discute lesquels. En gros, par exemple, si un mot est utilisé, on sait que ce n'est pas un autre mot et donc ça exclut forcément quelque chose. Si on dit oui. « voici les quatre animaux permis », un tel, j'en déduis que tous les autres sont interdits. Oui. Ou si je dis « voici les quatre animaux interdits », je déduis que tous les autres sont permis. Donc il y a des règles d'interprétation, c'est l'allusion. Ça, il y a besoin d'un maître pour le guider. C'est le deuxième niveau.
Mais après, il y a une approche, alors par un mot qui est sans doute hébreu, le drac. Alors c'est quoi ?
Alors drach, d'où le mot midrash, qui veut dire, c'est l'interprétation. Dans la tradition, c'est symbolisé par le miel. C'est ce qui est sucré, c'est ce qui est, je dirais, le niveau qui joint l'interprétation mystique de la Bible et qui est en général porté par une histoire. C'est la parabole. C'est ça, le drash ou le midrash. C'est la parabole. Par exemple, on va nous raconter qu'en réalité, il y a eu un débat entre Adam et Ève pour savoir s'il fallait faire comme ci ou comme ça. Alors que le verset nous donne quelques mots. Ce midrash s'appuie sur des commentaires rabbiniques, sur le texte de la Mishnah, etc. Et en gros, le grand commentateur de la Bible, dont on avait, il y a quelques années, expliqué le sens, Rashi, lui, est en gros une anthologie du midrash. Donc, ce Champenois, qui a traduit, enfin, qui a interprété, qui a commenté toute la Bible et tout le Talmud, a fait une anthologie du Midrash, c'est une anthologie de toutes les interprétations allégoriques de la Bible.
Alors, après la compréhension littérale, la compréhension allusive et l'approche par le Drash, il y a cette lecture ésotérique qui est donc un quatrième niveau, une sorte de quatrième étape. Pour en arriver là, il faut déjà avoir bien assimilé les autres.
Il faut au moins avoir compris les trois. Et je crois que la représentation de ces quatre niveaux se fait par quatre sortes de boissons. Très joli, je trouve. Le sens littéral, c'est l'eau. C'est vital. Sans eau, il n'y a pas de vie. Le remède, c'est-à-dire l'allusion, c'est le lait. Parce que de là, on déduit la loi. Je dis quatre animaux permis, j'en déduis que les autres sont interdits, par exemple. Mais donc, on en déduit la loi. Et la loi, c'est aussi la vie. De la même manière que le lait, pour un bébé, c'est la vie. C'est avec le lait qui démarre de la vie. Donc, le lait. Le drash, l'interprétation allégorique, c'est le miel, parce que c'est sucré.
Voilà.
C'est doux. On nous raconte des histoires, des paraboles pour nous faire percevoir quelque chose derrière. Et puis le dernier, niveau ésotérique, c'est le vin. Le vin, dans lequel, vous savez bien, il ne faut pas trop plonger, et l'abus de vin est risqué, parce que si on risque de perdre le sens réel, j'allais dire le sens commun.
Ou le sens de la réalité,
voilà.
Oui.
Donc vous voyez, il faut consommer du vin, c'est important, mais avec modération, parce que sinon on risque de s'étourdir. C'est ce qui est arrivé dans la Bible, par exemple, aux deux fils d'Aaron, qui, nous disent les textes, dans la Bible, dans le Lévitique, se sont saoulés et sont morts. Ils sont morts parce qu'ils sont arrivés pour servir Dieu dans un état de méconnaissance des choses. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient plus à discerner ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Ce qui veut dire que dans notre approche de l'étude, à faire un beau raisonnement, si on n'arrive pas à le raccrocher aux trois niveaux précédents, même à des raisonnements ésotériques, qui pourraient planer dans les hauteurs, les nimbes, etc. Il n'empêche que les limbes en question, elles doivent être raccrochées à un moment ou à un autre au lait, au miel et à l'eau. C'est-à-dire à la vérité portée par les textes. On ne peut pas faire dire un verset l'inverse de ce qu'il dit, même si le raisonnement est magnifique, l'aboutissement est superbe et la formulation est mirobolante.
Donc, pas trop d'ésotérique, bien que les kabbalistes soient tout de même des gens spécialisés dans une voie ésotérique.
Oui, mais ils
ont tout de même le background derrière.
Enfin, ils ne déconnectent jamais de deux choses, je crois. Ce background, c'est-à-dire ce poids des textes, et puis surtout une application. Je crois que, toute proportion gardée, si j'ose l'image, que je n'ai pas utilisée dans mon livre, mais que peut-être il y a une deuxième édition, je pourrais la reprendre. Je crois que c'est comme une marmite qui boue, ça boue. Il faut qu'il y ait de quoi sortir. Pour la vapeur, il faut qu'elle sorte à un moment, oui. Et je crois que cette vapeur qui sort, c'est l'application qu'on en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, il y ait une rencontre entre le concret de ma vie et le mouvement spirituel de mon âme. S'il n'y a pas rencontre, il risque d'y avoir des connexions. Et c'est souvent ce qu'on perçoit chez des gens qui ont une spiritualité tellement élevée, mais qui malheureusement ne transparaît pas dans leur acte. Et on a le sentiment que ce sont deux personnes qui sont devant nous. Un esprit d'un côté, un corps de l'autre. Et peut-être que la rencontre entre le corps et l'esprit, c'est ça la Kabbale.
Ce qui ne touche pas les grands mystiques. Thérèse d'Avila, par exemple, insistait beaucoup sur le côté concret de l'action.
Ce ne sont pas des grands mystiques, ce sont de vrais mystiques.
Ce sont des vrais mystiques, voilà. Haïm Korsia, donc, si je vous comprends bien, pour apprendre la Kabbale, si tant est qu'on puisse l'apprendre, il faut toute une vie. C'est une démarche très exigeante, très complexe. Mmh. Vous dites qu'il y faut d'abord une parfaite connaissance de l'hébreu.
Oui, parce que beaucoup de réflexions sont basées sur la géographie des lettres, sur la guématria, la valeur numérique de ces lettres, et sur les racines des mots. Parce que les mots disent des choses en même temps. C'est important, oui.
Il faut aussi une parfaite connaissance des textes.
Parfaite.
Enfin, des grands textes.
Qui peut prétendre, disons, avoir une vision d'ensemble
très bonne
des textes, oui.
De la Torah, oui. De la Bible, oui. Du Midrash, du Talmud. Oui. Ça fait déjà pas mal de textes, tout ça. Et puis,
textes,
vous dites après seulement le Zohar qui a été reçu oralement. Il faut aussi se plonger dans ce...
Non, le Zohar, c'est une des approches de la Kabbale. C'est la Kabbale, c'est le livre... Alors, on discute sur l'origine du Zohar. Bon, peu importe, est-ce qu'il arrive... en Espagne, par Moïse de Léon, est-ce qu'il est issu de Rabbi Yochanan ben Zakkai il y a 2000 ans, ou est-ce qu'il vient d'Abraham, ou il viendrait même de plus loin. Bon, la véritable question, c'est est-ce que l'enjeu, c'est d'avoir un livre qu'on ouvre, dont on est capable de compter les pages en se disant j'en ai fait 100 pages, 20 pages, 10 pages, 1000 pages, ou est-ce que l'enjeu, c'est d'essayer d'aller un peu plus loin dans la compréhension du monde et des hommes qui nous entourent. Je crois que c'est ça. Et la Kabbale porte bien son nom. C'est l'enseignement qu'on reçoit. Or, ce qu'on reçoit, on doit un jour le transmettre. Donc, c'est vraiment entrer dans une étude de Kabbale, c'est entrer aussi dans une chaîne dont nous sommes qu'un maillon. Je ne peux pas uniquement recevoir quelque chose qu'on me transmet. Je dois aussi, à un moment, le transmettre. On est en pleine coupe du monde de rugby. Le ballon, à un moment, il faut le transmettre.
Voilà.
Il faut le transmettre. Ou alors, il faut aplatir l'essai. C'est-à-dire, il faut aboutir à quelque chose. Et à ce moment-là... dire, voilà un enseignement que j'ai porté, le livrer à tout le monde et que tout le monde puisse l'interpréter, le discuter, le comparer, le rejeter si nécessaire. Je crois que c'est ça. L'enseignement, c'est pour ça que nous, c'est important d'étudier avec un maître. Nous avions discuté quelque temps dans les mots de la Bible du mot maître. Le maître, c'est un échange. Et la Kabbale, c'est un échange.
Si je vous comprends bien, celui qui s'intéresse à la Kabbale, le débutant, pour reprendre le titre de votre livre, il ne faut pas qu'il entreprenne ça comme une curiosité intellectuelle, encore moins comme un manuel pratique, mais bien comme une démarche spirituelle.
Exactement. Je crois même que c'est peut-être pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est une mode en ce moment, on pourrait qualifier de zapping spirituel. Les gens vont faire leur marché en disant « Cette théorie-là chez les bouddhistes me plaît bien, cette théorie-là dans l'islam elle est plutôt mignonne. »
Vous êtes contre ce zapping, alors ?
Oui, moi je suis contre et le zapping religieux et le syncrétisme religieux. Je suis pour la distinction des cultes, mais c'est parce que nous sommes distincts que nous pouvons être ensemble. Ensemble, ça veut dire garder chacun sa spécificité, sa richesse, écouter ce que les autres ont à nous dire, à proposer, et comprendre comment parfois on est beaucoup plus proche qu'on l'imagine. Mais aller faire son marché spirituel comme on le fait dans un marché aux fruits ou aux légumes, ça a quelque chose de contraire à une sorte d'engagement de vie. On ne peut pas dire « bon, j'ai essayé telle ou telle spiritualité, ça me va pas, je vais aller ailleurs ». Ce n'est pas possible. Et cet ouvrage, bon, on s'appelle « Kabbale pour débutants » comme on aurait pu s'appeler d'un autre nom, mais c'est, on ne peut pas être débutant dans la Kabbale, en fait, paradoxalement. C'est-à-dire qu'on peut... ça peut être l'aboutissement d'une démarche qui lui-même, cet aboutissement lui-même est un début, vous voyez ? Mais ce n'est pas la Kabbale pour ceux qui ne connaissent rien à rien. Ce n'est pas la Kabbale pour les incompétents ou ceux qui ne comprennent rien. C'est la Kabbale, j'allais dire la Kabbale pour les nuls, non, ce n'est pas ça. C'est la Kabbale pour ceux qui veulent débuter cette démarche de compréhension du monde alors qu'ils ne sont pas débutants ni dans la vie, ni dans la sagesse, ni dans la réflexion.
Donc c'est un livre que tout le monde peut lire pour s'enrichir quand même d'une tradition, pour le connaître mieux,
oui,
la tradition, parce qu'elle est compliquée
quand même.
En fait,
tout le monde peut le lire, parce que dans le rituel de la soirée pascale, on dit la chose suivante, nous sommes tous sages, nous sommes tous des connaisseurs de la Torah, de la Bible, et nous sommes tous des hommes érudits, pieux, engagés, mais nous avons quand même nécessité de rappeler ce qu'était la sortie d'Égypte. En paraphrasant cette sentence, je dirais, nous sommes tous sages, connaisseurs de la vie, etc. Et c'est parce que nous sommes sages et que nous sommes à l'écoute du monde et des hommes que nous devons essayer d'aller un peu plus loin de cette compréhension.
Merci Haïm Korsia. Je rappelle le titre de votre livre, La Kabbale pour débutants. Il est paru aux éditions Trajectoire.
Au revoir. Thank you.